Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat.
Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas.
Vous suivez Au bout du foot avec Malik Eudy et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h, sur monparisfm.com.
La Côte d'Ivoire, inspirante d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête.
C'est quoi?
Il vous s'appelle.
Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Il est 23h14. Vous êtes sur Mon Paris FM au bout du foot. Émission spéciale, émission demi-finale de la CAN 2023. Nigeria, Afrique du Sud, score final un but partout. Et le Nigeria se qualifie au terme d'une série nollywoodienne durant donc les tirs au but. Le deuxième match, la deuxième demi-finale, a vu l'opposition entre Ivoiriens et la République démocratique du Congo. Qualification de l'équipe d'Emers Faye avec notamment le seul et unique but de la partie dès la 65e minute, un but signé Sébastien Allaire. Et pour réagir ce soir, tous nos consultants foot de Mon Paris FM sont bien là. Arthur, salut à toi, bienvenue.
Ouais, bonsoir.
Ibrahima, bienvenue à toi.
Salut, bonsoir à tous.
Mon cher Elad, salut.
Salut Malik.
L'homme heureux, Chakenza, salut.
Salut.
Alfred, t'as l'habitude maintenant, devant le micro, salut Alfred.
Salut, merci.
Alors les amis, hein, tout de suite, hein, on va pas faire semblant, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais commencer justement par celui qui a un regard, on va dire, neutre dans cette affaire. Mon cher Arthur, t'as regardé le match, on va commencer donc par le Côte d'Ivoire face à la République démocratique du Congo. Quelles sont tes premières impressions?
C'était un match assez équilibré en première mi-temps. Il y a eu... Un bon départ de la RDC et la Côte d'Ivoire qui a tenu bon et qui après a pris le dessus sur le Congo. Ils ont eu deux grosses occasions qu'ils auraient dû convertir. Malheureusement, c'est passé de rien.
Là, tu parles de la RDC. Hein.
De la première mi-temps, mais des deux grosses occasions de la Côte d'Ivoire. Hein.
Ah ouais,
il y a la tête de Haller et un poteau, je crois.
De caissier, oui.
Voilà. Et en deuxième mi-temps, il y a eu un changement, je crois. Kakuta qui est sorti pour faire entrer le numéro 10, j'ai oublié son nom. Et en fait, la Côte d'Ivoire a pris le dessus physiquement et mérite leur qualification.
Ibrahima, quels sont tes sentiments, tes impressions justement à quelques minutes seulement depuis donc la fin de ce match Côte d'Ivoire République démocratique du Congo?
Bah déjà en tant que supporter de la joie, franchement je suis content parce que c'était pas du tout gagné surtout au vu de ce qui s'est passé en phase de poule. Maintenant pour revenir un peu plus sur le match, bah personnellement comme l'a dit Arthur en première période, j'ai trouvé ça plutôt serré. Il y a eu des actions du côté de la RDC, des actions aussi plutôt franches du côté de la Côte d'Ivoire. Après, en seconde période, la Côte d'Ivoire a quand même plus mis le pied sur le ballon et s'est quand même imposé physiquement et même tactiquement. J'ai trouvé que les Ivoiriens étaient au-dessus. Je ne voyais pas les Congolais enchaîner plus de trois passes vers l'avant sans qu'il y ait un Ivoirien qui puisse l'intercepter ou quoi que ce soit. Après, maintenant, pour revenir sur cette équipe ivoirienne, personnellement, bah, je trouvais que déjà, il y avait beaucoup plus de maîtrise que les matchs précédents. On avait constaté lors des deux précédents matchs de phase à élimination directe qu'il y avait... un gros souci au niveau des entames de match. Là, l'entame de match était plutôt gérée et il y a eu une maîtrise de la première à la dernière minute malgré tout, avec un rythme plutôt stable et ça, c'est plutôt rassurant à voir avant la finale. Maintenant, pour l'équipe congolaise, je suis plutôt déçu, mais pas trop en même temps parce que j'ai jamais trouvé cette équipe forcément flamboyante, que ce soit dans le jeu ou quoi que ce soit, donc je pense que la défaite est méritée ce soir.
Ouais, il faut dire que le Congo justement est sorti de sa poule quand même avec trois matchs nuls hein, et puis qualification. Donc il y a forcément des raisons par rapport à cette élimination de ce soir. Mon cher Eladj, ton sentiment justement par rapport à cette deuxième demi-finale de la soirée?
Bon, moi, j'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Franchement, la Côte d'Ivoire, bah, aujourd'hui, on a retrouvé une vraie équipe. Hein. On a retrouvé une vraie équipe, une vraie cohésion de groupe. Et ils ont vraiment donné ce qu'il fallait, je pense, pour se donner les moyens d'arriver en finale de cette compétition, de cette 34e édition organisée par ce pays-là, qui est, ma foi, je pense, la meilleure CAN organisée. Voilà, n'ayons pas peur de le dire, hein, la meilleure CAN organisée en termes de tout, même logistique, en termes de tout, en tout cas dans le jeu même. C'est l'une des plus belles CAN, en tout cas, que moi j'ai vues. Et je ne pense pas qu'il y en avait de meilleurs. Après, c'est chacun son avis. Et surtout, je tiens à les féliciter. Hein. Je tiens à féliciter le pays même hein, pour vraiment la bienveillance entre les supporters qui sont venus de toute l'Afrique et même d'ailleurs, hein, d'Europe, du monde entier même, j'ai envie de dire. Et franchement, on repense à ce pays-là, il y a à peu près 10 ans, qui était en guerre civile. Et aujourd'hui, on les voit organiser l'une des plus belles CAN jamais organisé. Franchement, respect et félicitations à eux. Mmh. Et après, sur le match, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ça a été deux combats tactiques. Je pense que les Ivoiriens ont gagné et c'était mérité. 1-0, c'est juste, c'est pas une correction, c'est pas, voilà, je pense que même s'il aurait pu avoir plus, mais de l'autre côté du Congo aussi, il aurait pu avoir des buts. Ça a été un match passionnant et la Côte d'Ivoire ont mérité leur finale.
Alfred, ton sentiment, Côte d'Ivoire 1, République démocratique du Congo 0, la Côte d'Ivoire est qualifiée en finale et retrouvera donc le Nigeria. Quel est ton sentiment justement par rapport à cette deuxième demi-finale de la soirée?
Ben, de façon honnête, je rejoins un peu ce que Alad vient de dire. Il faut féliciter déjà la Côte d'Ivoire par rapport à tout ce qu'elle a mis comme moyen pour cette fête. Nous ne sommes pas encore à l'apothéose. Quant au match en lui-même, en première mi-temps, c'était serré, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a montré un autre visage. Si au départ ce visage a été montré, on pouvait parier sur la Côte d'Ivoire, vous comprenez? Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore gagné, on n'a pas encore levé le trophée, mais aujourd'hui, on peut dire que oui, la Côte d'Ivoire fait plaisir. Enfin, les footballeurs font plaisir au pays organisateur. Donc, ceux qui sont allés au stade pour voir le match ne sont pas déçus. Il faut continuer tout doucement comme ça, parce que le Nigeria reste un grand pays de football. Il ne faut pas l'oublier. Et Osimhen est en train de prouver que le Ballon d'Or, il le mérite. Donc, à tout moment, ça peut changer. Mais, de façon honnête, ces jeunes, là, peut-être, je pourrais simplement dire, la petite expérience de Kessier, Fofana, et puis, bon, comment on appelle ça, Adingra, il y a eu quand même beaucoup de changements. Cette motivation, elle est là. Il y a une façon d'être agressif. Ils sont présents. Donc aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il ne faut pas trop crier victoire. Puis il faut aller tout doucement pour voir, c'est pas le 11, si la Côte d'Ivoire réussit à soulever ce trophée-là, ce serait la fierté de la Côte d'Ivoire. Elle serait battue jusqu'au bout, même si au départ, ce n'était pas une nation à compétition.
Mm-hmm. Mon cher Cheikh Nza, et merci Faye, il y a une trouvaille quand même hein, qu'on ne peut pas lui enlever. Et je crois que c'est depuis ce changement que la Côte d'Ivoire a retrouvé un peu des couleurs. S'agissant de son milieu de terrain. Gassé jouait avec trois milieux de terrain, à savoir Franck Kessier, Seko Fofana et Diakité.
Ibrahim Sangaré.
Il a fait le choix à un moment donné d'enlever Kessier. Après, ça a été même Seko Fofana qui sort en cours de match. Oui. Et aujourd'hui, on a vu Sangaré qui est rentré. Oui. Jamais les trois, depuis l'ère Faye, n'ont été alignés ensemble. Est-ce que ce n'est pas été finalement ça la clé de l'équipe ivoirienne?
Oui, moi je pense que c'est la clé parce que quand tu regardes les trois joueurs, il y a deux joueurs à vocation purement défensive qui ont le même profil, que ce soit Ibrahim Sangaré et Franck Kessier, qui ont le même profil, qui sont des joueurs qui défendent très bien. Seko, lui, se projette un peu plus. Mais je pense que de base, vraiment, et ces trois milieux n'auraient pas dû être associés. Je pense que c'est ce qui mettait un peu à mal l'animation offensive de l'équipe, parce que c'est des profils similaires. En termes de football, il faut un peu de variation, surtout dans le milieu terrain. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup remarqué l'entrée de Lazar Mani, que j'avais parlé sur le plateau, si vous vous souvenez. Mais il a beaucoup apporté dans la percussion, il arrivait à garder des ballons, il arrivait même à gratter des ballons, il arrivait à lancer la lettre au niveau du pressing. Quand Allais n'était pas concerné par le pressing, c'est lui qui allait. Je pense que MSY déjà, il a impacté ce groupe à travers déjà ce sursaut d'orgueil, parce que quand il prend la sélection déjà, c'est pas totalement lui, parce que là, en ce moment, on parlait d'un rappel d'Hervé Rena, et donc du coup, je pense que ça a un peu affecté son moral. Il s'est dit, ben, il va falloir que je lui montre que je suis capable.
Ça, on le sait pas, hein, on peut pas le savoir.
Oui, mais parce
qu'on
n'est
pas dans sa tête. Hein.
Oui, on n'est pas dans sa tête, mais par contre, il a parlé, il a dit vraiment que lui, ça l'intéressait pas, mais en tant être humain, il a un ego quand même, je pense que ça a dû impacter un peu son moral. Il a dit, il va falloir que je lui montre de quoi je suis capable. il va falloir que je leur montre un peu que vraiment j'ai des qualités. Et là, il est en train de déjouer tous les pronostics. Il envoie cette équipe déjà au début de la compétition qui n'était pas partie parmi les hyper favoris. Personne ici ne croit à une finale Côte d'Ivoire-Nigeria. Moi, je pense que c'est le plus...
Moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Je pense que ça, c'est arrivé justement après les premières prestations, notamment durant les matchs de poule. Mais de fait, le fait de savoir que le pays organisateur est la Côte d'Ivoire et que c'est tout de même une référence au niveau du football africain, il y avait quand même cette Côte d'Ivoire-là qui était classée quand même parmi les quatre demi-finalistes potentiels. C'est vrai que c'est au fil de l'eau, sachant que les contenus des matchs n'étaient pas bons du tout et même qui étaient soldés même à travers même des défaites, notamment face à la Guinée équatoriale.
Ouais, une défaite humiliante.
Je pense que ce sont ces éléments-là qui, petit à petit, ont fait déchanter les espoirs ou en tout cas les pronostics qu'on avait en direction de cette équipe nationale-là. C'est l'impression que j'ai. Hein. Je sais pas.
Non, mais si moi, je pense que les Ivoiriens, déjà, il y a pas mal d'Ivoiriens au début même qui n'y croyaient pas. Ils ont dit que c'était une carte de l'hospitalité. Certes, on allait l'organiser, mais peu d'Ivoiriens vraiment croyaient en cette équipe. Parce que là, depuis certain temps, l'équipe nationale nous déçoit. Il n'y a pas que la défaite humiliante du 4-0. Il y a aussi la non-qualification à la Coupe du Monde qui a été un fait majeur. Pourtant, on sait que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de football, un pays où les gens ils aiment le football. Donc, depuis un certain temps, les Ivoiriens étaient dessus. Mais vu que vraiment, c'est la nation, donc on n'a qu'une seule nation, ils se devaient vraiment d'être au rendez-vous, de rendre la fête plus belle. Mais là, vraiment, on sent un sentiment de fierté de la part de tous les Ivoiriens. Parce qu'on ne croyait pas en cette équipe. Moi, à un moment donné, oui, j'y croyais plus. Là, vraiment, ils m'ont fait déjouer. Je pense que cette équipe a les qualités pour battre le Nigeria. Déjà, si l'entraîneur il a ce même système de jeu, et déjà, il y a un regain de confiance, ça, c'est très important. Aujourd'hui, j'avais un Ibrahim Sangaré qui allait gagner les ballons, qui arrivait à se calmer, qui savait temporiser, qui a importé de l'impact. Parce que là, quand il est rentré...
Parce qu'il a joué à son poste, finalement.
Oui, il a joué
et
à la sentinelle.
Et quand il rentre, Sekou Fofana n'est plus sur le terrain.
Oui, Sekou Fofana sort.
Donc, il ne se marche pas dessus avec Kessié.
Oui.
Justement, Emers Faye, mon cher Arthur, est-ce que tu penses qu'un entraîneur, justement, parce que toi aussi, tu es entraîneur par ailleurs, est-ce que tu crois qu'un entraîneur peut avoir justement de l'impact comme ça sur les joueurs? Ou, parce qu'on nous dit souvent, c'est d'abord les joueurs qui sont sur le terrain, c'est pas l'entraîneur qui court, c'est d'abord l'entraîneur qui peut avoir un impact comme ça, comme Emers Faye. Est-ce que tu crois à ça, toi?
Non, bien sûr, il faut pas oublier que je crois qu'il a été international ivoirien.
International ivoirien, voilà. Qui a dû mettre fin à sa carrière à 27 ans seulement, voilà, pour des problèmes
joueur,
de santé.
C'est un joueur de très haut niveau, c'est un joueur... Voilà, il connaît, il sait ce que c'est qu'une compétition, il sait ce que c'est être un joueur professionnel. Et moi, je ne vais pas dire qu'il y a eu une énorme différence entre lui et son prédécesseur, mais vous n'avez pas souligné le retour dans l'équipe de Haller. Et pour moi, c'est lui la pièce la plus importante à rapporter à l'équipe. Au-delà du milieu de terrain, le milieu de terrain, c'est fort. C'est-à-dire que tu peux sortir Série, tu fais jouer Sangaré, tu fais sortir Sekou Fofana... Il y a beaucoup de joueurs au milieu de terrain, mais pour moi, c'est devant, parce que Kwame, il n'a pas été performant, ou Crasso. Donc vraiment, c'est l'apport. Aujourd'hui, en plus, il est décisif de Haller aujourd'hui.
Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il est rentré, ne serait-ce qu'en termes de points de fixation, déjà, il bloquait. Je pense même que c'est justement son entrée qui a permis aussi à la Côte d'Ivoire de se qualifier, notamment face au Mali. Mon cher Alfred.
Moi, je vais juste rajouter certaines choses, c'est que... l'entraîneur principal il est parti et que Ernest Faye était en dessous de lui, donc quelque part il n'est plus là et Ernest Faye aujourd'hui a la lourde responsabilité, il doit faire des choix, mais on n'avait pas un attaquant comme Alain en début de compétition et ça nous a beaucoup manqué. Et puis on avait l'impression que le premier entraîneur avait déjà fait ses choix parce qu'il y avait des gens qui étaient venus qui n'étaient pas à la hauteur même des débuts de compétition. Donc aujourd'hui je pense que Ernest lui-même en interne, a dû, ma foi, réfléchir et voir, maintenant que Gassi n'est pas là, quelles sont les responsabilités que je vais prendre pour intégrer d'autres joueurs. On ne s'attendait pas à Simon Adingra, on ne s'attendait pas à Mani. Donc il y a des gens qui arrivent, qui apportent quelque chose. Mais surtout, la forme de Sébastien Haller qui a pesé, ça il faut le reconnaître. Sans lui, on ne serait pas arrivé jusqu'à là. Hein. Parce que bloquer des défenseurs, jouer avec sa masse, franchement, je dis une chose, la Côte d'Ivoire peut continuer avec ça. Et puis, bon, comme je suis de côté, les gens, ils réussissent. Mais il faut retenir trois choses. Sekou Fofana, Kessié, et je dirais même, il a fait des erreurs, il faut reconnaître, Michael Seri, mais même l'expérience de Massavel Gadel, ça commence à venir. Et si les gens veulent se mettre unis dans cette forme, ils peuvent faire quelque chose.
Il y a une personne que vous oubliez beaucoup dans cette équipe ivoirienne.
Laisse-moi le dire peut-être.
Dis-moi.
J'aurais dit Fofana.
Voilà. Non, moi j'aurais pas dit Fofana. Je pense Fofana, que il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup Syndica. Dans cette équipe. Merci
Evan Syndica. Il est très solide Evan Syndica.
C'est le seul qui a fait tous les matchs.
C'est la pierre angulaire. Moi je pense que c'est la pierre angulaire.
Il n'est jamais sorti. Il est toujours resté maître de sa défense, même quand il y a eu la débâcle face à la Guinée équatoriale notamment.
Tout ce que tu dis, je comprends.
Ndiga, vous ne parlez pas souvent d'Ndiga.
Oui, mais si tu mérites quelque chose, tu montres que tu es capable de faire quelque chose.
Il en taille patron.
Pas qu'on t'attende.
Oui, vraiment.
On ne doit pas t'attendre. Parce que tu es en sélection nationale, tu as le devoir de donner des résultats. Donc pour moi, ils sont là, ils doivent se battre.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Mais si aujourd'hui on parle de ces Fofana, c'est parce que dans l'équipe, il a montré de quoi il est capable. Les autres peuvent faire la même chose comme lui. C'est
non,
ça qu'on
non, mais c'est que Fofana, on le connaît, je veux dire. Ndika, c'est un peu une nouveauté. Quand la canne arrive, Ndika doit être
à. Moi, je disais le gardien, il y a sélection.
Non, moi, je pense que Ndika, vraiment, je reviens avec au propos de Malik, je pense que oui, il a fait une très belle analyse. Ndika, vraiment, c'est la pierre angulaire. Quand on regarde depuis le début, on sent que Gassé, vraiment, il avait confiance en ce joueur. On sent que là, MSF a confiance en ce joueur. Et puis, il montre des qualités vraiment dignes d'un patron de la défense.
Oui, mais
parce
c'est
que...
pas inconnu, hein. C'est un joueur qui est. C'est un top défenseur.
Oui, c'est un top défenseur. Déjà, oui. Au niveau de l'Eintracht Francfort, il y a très peu de gens qui le suivaient. Moi, je le suivais là-bas avec Sébastien Haller. Après encore, là, il arrive du côté de l'AS Roma. Il fait une belle saison. Mais là, par contre, les contextes sont différents. Là, c'est une CAN. Il n'avait pas l'habitude de jouer. En plus, il y a le poids du maillot. Et déjà à la maison avec la pression. Mais il arrive à gérer tout ce tempo. On a vu Ousmane Diomandé qui est un top joueur aujourd'hui. Il y a pas mal de grands clubs qui le suivent. Mais vraiment qui n'arrivait pas à assumer ses responsabilités en sélection.
Il a mal commencé sa compétition.
Ah oui. Et en plus de ça, je pense que là, même sa place en sélection, elle est jouée. Elle est discutable aujourd'hui. On a vu un Willy Boly qui se relance, un Kossono Odilon qui. Voilà, donc.
Kossono Odilon, un petit bémol quand même. Ouais, il ne va pas trop vite.
Oui, mais on a vu un Willy Boly aujourd'hui qui soit une masterclass. Moi, j'ai beaucoup aimé son attitude. Il gagnait tous les ballons et il était très bien en couverture.
Moi, j'ai une question pour vous. J'ai l'impression que Gassé avait trop dans son esprit la Ligue 1. Quand je vois des garçons comme Serge Aurier, quand on voit quand même l'apport de Sengo Fofana, Wilfried Sengo, je n'ai jamais compris, bien que capitaine, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que Serge Aurier était malgré tout le temps titularisé. Kossounou, il prend le carton rouge face au Mali parce que, je suis désolé, hein, le mauvais match de Kossounou face au Mali, moi je t'ai dit 90% c'est la faute à Aurier. Hein.
Oui,
c'est
parce qu'il collait trop la ligne.
Le but que la Côte d'Ivoire concède face au Sénégal.
Oui, c'est Aurier.
C'est toujours Aurier.
Lui, il dézone trop.
Il passe son temps à donner des consignes, mais il ne s'occupe pas de Sadio Mané.
Ouais, il dézone trop. Il dézone. Et ça, ce n'est pas bon pour une défense.
Même offensivement, Serge Aurier, je sais plus ce qu'il
apporte.
C'est
limite maintenant.
Offensivement, il apporte rien.
Mais j'ai l'impression que Gassé est resté sur le Serge Aurier du Paris Saint-Germain.
Non, mais Jean-Louis Gassé, moi je pense qu'il était totalement perdu. Même qu'on voit qu'il insistait avec les trois milieux de terrain. Et dès lors que Emers Faye se met à l'échanger pour pouvoir. Pour pouvoir proposer autre chose, tout simplement, parce que l'équipe, elle était tout simplement déséquilibrée. On voit tout de suite qu'il se passe quelque chose dans l'équipe. Donc, je pense que Jean-Louis Gassé, il a sa part de responsabilité malgré tout, même si c'est pas lui qui joue, c'est sûr, hein, et c'est les mêmes joueurs finalement. Il a sa part de responsabilité, parce que même des joueurs comme Jonathan Bamba et Jérémy Boga, depuis que Jean-Louis Gassé n'est plus coach, on les a plus revus. Et ces joueurs-là n'ont jamais été bons.
Et ça, c'est
les
joueurs Ligue 1. Il est bloqué là-dessus.
Et ces joueurs-là n'ont jamais été bons.
Tout ce qui est Adingra, qui joue du côté de l'Angleterre, tout ça, j'ai l'impression qu'il n'a pas un vrai regard là-dessus. Mais dès qu'il entend Ligue 1, pour lui, c'est automatique, c'est forcément du bon. Justement, Arthur, dis-moi, toi qui es coach par ailleurs, est-ce qu'un entraîneur adjoint a une influence finalement quand il travaille avec l'entraîneur principal dans cette composition d'équipe où il est juste là pour animer les séances, le mettre en place, est-ce qu'il a un vrai apport? Parce que j'ai l'impression que, quand je regarde les compositions d'Emers Faye aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il était peut-être pas du tout d'accord avec les premières compositions au fond de lui-même. C'est l'impression que j'ai.
Bah après, tout dépend du coach numéro 1, comment il délègue son travail. Des fois, il y a des numéro 1 qui n'hésitent pas à faire travailler tout le staff technique. Et ensuite, il y a des numéro 1 qui veulent à chaque fois prendre toutes les décisions, donc c'est compliqué. Après, moi, je peux comprendre que Gassé a fait peut-être une fixation sur certains joueurs, et c'est possible. Après, Emers Faye, il a fait jouer son intuition sur Adingra. Il a été performant, je crois, il a égalisé sur un match. Il le met titulaire le match d'après. Donc, il comprend que dans une compétition, il ne faut pas faire jouer les noms, mais les joueurs qui sont en forme, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça que la Côte d'Ivoire a pu se régénérer et donner une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion à l'équipe.
Oui, Eladj, après toi, Ibrahim, Eladj, ton sentiment par rapport justement à ce coaching Emers Faye, est-ce que tu penses qu'il a apporté, parce que justement, je fais cas de ça, parce que je sais qu'en ce moment, suivant un peu les actualités du côté de la Côte d'Ivoire, un journaliste justement, média, télé, au niveau de la Côte d'Ivoire, a dit tout simplement, il y a une levée de bouclier justement qui demande même sa démission tout simplement, qui a dit tout simplement que Emers Faye n'avait rien apporté à cette sélection et qu'il était simplement là en train de travailler sur les bases de Gassé. Et aujourd'hui, il est un peu sur la sellette. Qu'est-ce que toi, t'en penses ?
Moi, franchement, bah, c'est ce que j'allais demander même. C'était une très bonne question. J'allais demander est-ce qu'un adjoint a vraiment son apport ou pas ? Parce que à partir du moment où tu te gourres sur un match, sur un deuxième match, obligatoirement, il y a ton adjoint à côté, tu lui poses la question. Tu lui demandes en tout cas ce qui va pas.
Le souci dans cette équipe, c'est que le réel adjoint de cette équipe, c'était pas Emers Faye, mais c'était Ghislain Printemps qui était venu.
Il faisait partie des adjoints, Emers Faye, dans tous les cas.
Mais il n'était pas. Ce qu'Ibrahim a dit, c'est vrai, il n'était pas le réel.
Le réel adjoint de l'équipe, c'était Ghislain Printemps. Je pense pas qu'Emers Faye
avait réellement
son mot à dire, et même s'il le dit, quel poids ça avait aux oreilles de Ghislain Printemps.
Et après, moi je pense qu'après, il pouvait pas faire pire. De toute façon, il était obligé de faire des changements. Il pouvait pas faire pire, il pouvait pas réaligner les mêmes joueurs non plus. Ça ne pouvait pas. Il était obligé d'essayer de trouver une alchimie.
On peut pas réécrire l'histoire, mais j'ai un doute que, ne serait-ce qu'au milieu de terrain, je voyais pas Gassé enlever un de ses tauliers.
Mais ça, non.
Entre Kessié, Sangaré et Seko.
Mais ça a été dit.
Mais je le voyais pas enlever un de ses joueurs.
Mais ça a été dit dès le premier match qu'on a vu de la Côte d'Ivoire. Ça a été dit. On a dit, on pense que lui, il voulait jouer avec un milieu à deux et il ne sait pas quel choix faire parce qu'il voit que les trois font des prestations assez moyennes. Il y en a aucun qui se départage.
Non, parce que les trois sont venus justement avec des noms. Mais pas forcément avec la forme.
Aussi.
Mais il avait du mal justement à se dire je laisse un pour en mettre deux et inversement, il avait beaucoup de soucis à ça. La preuve, il l'a jamais fait.
On parle beaucoup de la Côte d'Ivoire. Moi, je voulais parler du Congo. Il y a des joueurs qui m'ont pas mal déçu quand même.
On va arriver sur le Congo justement dans les évaluations. Rapidement, on boucle avec la Côte d'Ivoire.
Moi, il y a un truc vraiment, je pense que MS Faye, déjà, il a beaucoup apporté. Je dédie un peu ce journaliste qui racontait un peu n'importe quoi. Parce que tu t'imagines que si on continuait de cette même lancée avec Gassé, je serais même pas sûr qu'on aurait pu battre le Sénégal. Parce que MS Faye, déjà, il a l'audace. Il a le charisme d'un coach. Et il a Laura aussi qui va avec.
Et puis la fin, hein, il a une carrière écourtée.
Parce qu'au football, il n'y a pas que des choix. Il faut aussi un entraîneur qui soit audacieux. Je ne sais pas si on peut demander l'interprétation d'Arthur, qui est entraîneur. Il faut de l'audace, il faut aussi du charisme. À un moment donné, les joueurs doivent sentir qu'il y a une présence masculine derrière. Ils doivent sentir qu'il y a un meneur d'homme. Moi, je pense que MS Faye, il est prompt à cette équipe. Et je pense que c'est le meilleur sélectionneur en ce moment pour cette équipe. Quelles que soient les échéances à venir, il faut lui donner du temps. Mais il nous construit une équipe solide pour la suite.
Arthur,
c'est un moment à dire.
Moi, je vais dire une chose, c'est que l'équipe, elle est déjà là, en fait. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a déjà des gros joueurs. Parce que même si tu Emers Faye ou pas, les joueurs, ils les ont éteints, la Côte d'Ivoire. Ils ont éteint le Sénégal, le Mali. C'est que tu peux faire confiance en ces hommes. Il y a la qualité. Les joueurs, ils sont là. Il faut trouver l'alchimie, le 11, les joueurs qui vont entrer en remplaçant. Et ça va rouler, puisque tu regardes la moyenne d'âge, il y a quand même des jeunes joueurs dans ce groupe. Donc en gros, la Côte d'Ivoire, ils seront là encore dans 2 ans, dans 4 ans. Donc comme tu as dit, il faut laisser du temps maintenant à Emers Faye pour réussir encore mieux.
Et alors on va parler du Congo, les amis, maintenant. Hein. Ibrahima, tu souhaitais justement ressortir quelques noms au niveau de la République démocratique du Congo, qui n'est pas non plus arrivé en demi-finale par hasard.
Oui, c'est sûr, s'ils sont arrivés en demi-finale, ils ont quand même sorti de l'Égypte. Hein. Personnellement, je ne m'y attendais pas. Après, maintenant, pour revenir sur certains joueurs qui m'ont énormément déçu dans cette équipe, que j'ai d'ailleurs jamais trouvé réellement flamboyante, c'est notamment l'attaquant Cédric Bakambu, qui n'a pas été bon. J'ai pas le souvenir d'un seul bon match.
Il a pesé quand même.
Très mauvaise canne quand même.
Il n'a pas fini, mais je trouve qu'il a quand même fait. Il a posé problème à l'axe central de la Côte d'Ivoire en première mi-temps.
Ouais, je suis pas convaincu.
Pas sur la durée, mais...
J'ai même préféré des joueurs qui rentrent à sa place, notamment Silas, qui lui apportait réellement quelque chose, je trouve, à cette équipe congolaise.
C'est un bon joueur, Silas, vraiment.
Silas, il apportait réellement quelque chose, et Cédric Bakambu, je pense qu'on est sur la fin, parce que ça, je vois pas le Congo repartir à la CAN, à la prochaine compétition avec lui. Après, sinon, pour revenir sur le match, l'équipe, elle était tout simplement pas inspirée. Hein, tout simplement, on a vu Kakuta qui a joué 45 minutes à peine. Parce qu'il était tout simplement pas en forme. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi il était titulaire lors d'un match aussi important à 50% de ses capacités.
C'est toujours la question justement du joueur talentueux qui est capable de faire la dernière passe. Et puis tu mènes 1-0, après tu le fais sortir et puis tu gères derrière. C'est des paris. Hein.
C'est intéressant vraiment.
Ouais. Kakuta, il a d'énormes qualités. C'est pas à remettre en question. Maintenant, le faire jouer à 50%, je vois pas l'intérêt. Surtout quand il y a Théo Bongonda que je trouvais pas forcément extraordinaire, mais qui faisait quand même le taf sur le terrain. Et ouais, sinon, j'ai été très déçu par cette équipe, et notamment cette défense que j'ai trouvée extrêmement naïve. Notamment Inonga, que j'ai pas trouvé bon ce soir. Même Bemba, j'ai trouvé que ça manquait d'impact.
Un peu émoussé, non ?
Oui, un peu. Bemba, ouais. Peut-être, sûrement. Ça manquait un peu d'impact par rapport à ce qu'il nous a proposé dans la compétition. Mais cette équipe congolaise m'a pas mal déçu, quand même. Je m'attendais à mieux.
Et là, justement, est-ce que tu crois pas que... il y avait comme une forme de pression sur cette équipe congolaise. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Elle était moins relâchée que l'opposition que j'ai vue face, par exemple, à l'Égypte. J'ai l'impression que ce soir, elle était un peu...
Moi, je pense que...
Elle a eu le syndrome ivoirien, finalement.
Non, même pas. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec le syndrome ivoirien. Moi, je pense qu'ils ont eu de la pression, par contre. Mais je pense plus que c'est à cause des... On a vu ce qui se passe en ce moment au Congo. Ça a pris beaucoup plus d'ampleur ces derniers temps, médiatiquement, en tout cas parlant. Et même des joueurs se sont exprimés, or qu'ils sont à la CAN. Du coup, moi, je pense que ça a pesé même sur eux-mêmes et ça leur a rajouté une pression en plus. Parce que les gens disaient, servez-vous de ce moyen-là pour dire vos messages parce que les gens vous regardent à ce moment-là.
Contrairement à l'équipe du Mali qui s'est servi de ses difficultés pour justement avoir cette résilience, tu penses qu'au niveau de la RDC, ça les a plutôt inhibés ?
Moi, je pense que ça les a un peu inhibés quand même, parce que dans le sens où on les a vus pas produire grand-chose. Hein. C'était difficile, on les a pas tous sentis dans le match. C'était difficile. Moi, j'ai vu une équipe congolaise aujourd'hui que je n'ai pas vue avant, parce qu'avant, ils offraient à chaque fois des très belles prestations contre le Maroc. On les voyait, hein, franchement, mais là, on ne les a pas reconnus. Moi, je pense qu'ils étaient à côté de leur pompe.
Au niveau Congo, s'il y a des joueurs à ressortir, Chakanza ?
Oui, personnellement, Chancel Mbemba qui fait une très bonne CAN. Après aussi, Gael Kakuta, je pense que c'était mieux qu'il joue pas ce match parce qu'il n'a pas apporté, il n'a pas apporté dans le jeu, que ce soit ses frappes, ses percussions. On a vu Gael Kakuta qui était très, très moyen, limite même, je pense que décevant, je peux me le permettre. Il était très, très décevant. Après aussi, Bakongo aussi, hormis deux actions, on n'a pas senti ce joueur vraiment qui pouvait dézonner, qui pouvait apporter soit le surnombre au milieu, qui pouvait vraiment, soit en une touche de balle, essayer d'apporter un surplus, ou soit peut-être en des appels. Moi, j'ai très peu vu ça, j'ai vu au contraire. Je pense que ce qui a déjoué le plan de Sébastien Desap, c'est l'adversité qu'il y avait en face. Et il faut croire qu'on avait une équipe qui était très, très bien organisée. Du côté de la Côte d'Ivoire, on avait une équipe qui défendait en zone. C'est-à-dire, à chaque sortie de balle, on avait un joueur qui était au marquage. Et ça, quand, par moment, quand c'est comme ça, c'est difficile pour une équipe comme la RDC qui a tendance déjà à mettre un peu de l'impact au milieu sur le jeu serré, qui arrivait à jouer sur le côté. Ce qu'on a remarqué aujourd'hui, on a vu que des joueurs congolais, ils se permettaient de faire des montées, même les actions du RDC se faisaient sur le côté, soit avec un Wissa ou soit de l'autre côté, avec un Malchek vraiment qui arrivait à porter le surnombre. Je pense que là, c'est l'équipe ivoirienne qui a déjoué le plan de Sébastien Desab. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à ajouter, à part hormis quelques déceptions concernant Gael Kakuta et Bakongo.
Alfred, j'ai l'impression qu'on a retrouvé l'équipe d'Hervé Renard aujourd'hui. Là. Quand je voyais cette équipe jouer, je revoyais des Wilfried Canon, des Eric Bailly, justement cette équipe qui a remporté la CAN en 2015.
De loin, ça se voit qu'il y a un message qui est en train de venir. Hein. Ça se voit au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, je pense qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Et je pense que... Attendons le 11 février, c'est ça ?
Oui, c'est dimanche.
Au soir du dimanche.
Ça va vite arriver, c'est dimanche.
Oui, parce qu'il y a de la motivation. Après, comme je dis, les individualités font preuve de... Je ne sais pas, ils se montrent. Ghislain Conan, bon, Singo, bon, ça joue. Le gardien de but, donc espérons voir. Parce que pour l'instant, comme je vous dis, il y a de la motivation, il faut reconnaître. Maintenant, le Congo, je ne veux pas te mentir que éliminer l'Égypte et puis avoir cette attitude face à la Côte d'Ivoire, pour moi... Je pense que...
Voilà. Un peu cuit aussi, je pense. Ouais, hein, ouais, un peu cuit. Bien. À présent, les amis, on va basculer dans la première demi-finale. Hein. On a vu justement le Nigeria face à l'Afrique du Sud. Un but partout au terme donc, du temps réglementaire. Les prolongations n'ont rien donné. Et il a fallu donc attendre la séance des tirs au but pour voir le Nigeria s'imposer. On a eu peur à un moment donné, hein, sachant que notre ami Williams, au niveau donc, des cages sud-africaines, avait réalisé quatre arrêts au niveau donc, de la demi-finale, notamment face au Cap-Vert. Ouais. On s'est dit qu'il n'était pas très loin de récidiver ses exploits, mais ce n'est pas arrivé.
Non, je pense qu'on sait qu'il ne pouvait pas récidiver une telle chose, une telle prouesse, parce que franchement, arrêter 4 pénaltys, je le dis, j'ai jamais vu un gardien faire une prestation aussi bonne. Du coup, non, on savait qu'il ne pouvait pas faire la même. On l'a vu passer très près de quelques pénaltys. Mais voilà, ça ne l'a pas fait. Ça ne peut pas à chaque fois leur sourire. Moi, l'équipe de Nigeria, moi, franchement, bah, Osimhen, hein, Osimhen, comme d'habitude, hein, il est, malgré qu'il avait des problèmes d'abdomen, de ventre, ou on ne sait pas trop quoi, mais il a quand même joué et on l'a vu à un très, très haut niveau. Et il n'a jamais déçu avec le Nigeria depuis le début de cette compétition. Mm-hmm. Et j'aimerais bien aussi parler du coach, hein, du coach nigérien, qui, lui, devait être limogé. Avant cette CAN-là, il devait être limogé à cause de des résultats catastrophiques qu'ils ont eus pour les barrages de qualification de Coupe du Monde. Ils se sont fait éliminer et du coup, c'était vraiment honteux. Les supporters n'étaient pas très, très contents, c'est ce qui est tout à fait normal. Mais le coach devait être limogé à cause de... mais ils ne l'ont pas limogé parce qu'il lui devait encore 3 mois de salaire et ils ne pouvaient pas lui régler ces 3 mois de salaire-là. Ils ne pouvaient pas... Oui, c'est vraiment réel.
Les fameux problèmes de salaire avec les fédérations africaines.
Mais pour cette fois-ci, en tout cas, ça leur a porté... Voilà, on va dire que ça a été une bonne chose pour eux parce que ce coach-là les ramène quand même en finale de cette CAN-là. Voilà, et je pense que les Nigériens ne s'y attendaient pas du tout.
L'équipe du Nigeria, Ibrahima, impression avec cette qualification pour la finale, justement.
Déjà, j'ai trouvé que c'était un match très serré entre les deux équipes. Et franchement, je tenais à féliciter l'équipe sud-africaine qui m'a franchement surpris. Hein, parce que le premier match de la compétition contre le Mali, ils prennent 2-0. Je ne pensais pas les voir aussi loin dans la compétition. Et aujourd'hui, on se retrouve à jouer la petite finale samedi. Donc, c'est quand même à féliciter.
Attention, Brahima, il faut respecter le Mali. Hein.
Maintenant, pour revenir sur le match en lui-même, bah, le Nigeria a plutôt bien joué. Après, le match nul, franchement, c'était mérité parce que les Sud-Africains ont su se créer quelques occasions malgré tout. Après, bah, sur la séance des pénaltys, bon, je pense que comme Eladj l'a dit, arrêter 4 pénaltys dans un match, personnellement, je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça. Donc, réitérer l'exploit, ça allait quand même être compliqué pour Williams. Après, maintenant, pour les individualités côté Nigeria, il y a des joueurs que j'aime beaucoup, notamment Aina, qui en première ligue bon, fait souvent quelques matchs, mais je ne l'avais jamais vu à ce niveau-là. Et Iwobi aussi, qui a été replacé dans de façon un peu plus axiale sur le terrain, que lui qu'on a connu un peu plus sur le côté, que ce soit Arsenal ou Everton, et qui, dans l'autre jeu du Nigeria, fait une très, très grosse cagne et qui m'a beaucoup surpris, avec notamment l'autre joueur de Fulham, le défenseur central, les deux défenseurs centraux, Calvin Bassey et Troostekong, qui sont excellents durant cette compétition et qui, aujourd'hui, le Nigeria n'a encaissé que 2 buts dans cette compétition et c'est à souligner.
Dont un pénalty. Hein,
Dont un pénalty, je pense qu'ils n'y sont pas pour rien.
Ce n'est pas le fait du hasard. Alfred.
Je rejoins parfaitement ce que Ibrahim vient de dire. Le Nigeria, c'est un géant du football africain. Mais les individualités, de toute façon, c'est déjà démontré. Hein. Faut reconnaître que Simon et sa bande et les autres sont là. Maintenant, la défense elle-même, et Kong, franchement, on ne peut rien dire. Le Nigeria est costaud. Ça, il faut le dire. Le Nigeria a les armes pour pouvoir gagner ce trophée-là. Donc, pour moi, s'ils ont gagné l'Afrique du Sud, quelque part, c'est mérité, même s'ils sont à le tir au but. Mais le Nigeria, depuis la compétition, moi, déjà, le jeu que le Nigeria produisait, je sentais que le Nigeria pouvait avancer. C'était rassurant. Donc, aujourd'hui, pour moi, il faut féliciter ce peuple-là. Mais c'est un peuple à fort caractère. Ils ne sont pas là pour rigoler quand ils jouent au football. Donc, pour moi, il faut que la Côte d'Ivoire se prépare.
On va se projeter justement dans les 5 dernières minutes de cette émission sur la finale à venir. Mais on va s'arrêter pour l'instant sur la prestation Nigeria-Afrique du Sud aujourd'hui avec la qualification des Nigérians justement au tir au but. Mon cher Chakenza.
Oui, moi par contre, j'ai vu une équipe du Nigeria en difficulté vraiment. Parce que j'ai vu Hugo Bros vraiment qui a maîtrisé son sujet. Parce que hormis le pénalty que Osimhen crée, on ne voit pas un Nigeria qui est tellement dangereux. Oui, parce qu'on a vu que les Sud-Africains, quand ils reviennent au score, ils ont la balle de match. Si Percy Tau, il la met, c'est fini. Là, le Nigeria, on n'en parle plus. Sincèrement, ce Nigeria, il est prenable. Parce que oui, il y a un truc que, après plusieurs analyses de match du Nigeria, j'ai comme l'impression qu'il s'est tout le temps sur un fait de jeu. C'est-à-dire, c'est un bloc qui défend bien, mais qui ne se crée pas vraiment des occasions. Disons peut-être 8-7 occasions. Ils sont juste réalistes. C'est-à-dire, sur le fait que Osimhen déjà, qui abat tout le travail, par moment, il y a des percussions de Mola Lookman ou du côté de Moses Simon, mais on n'a pas un Nigeria vraiment qui maîtrise son sujet, qui arrive à faire des combinaisons.
Mais justement, est-ce que cette équipe n'est pas bâtie justement pour une compétition telle que la CAN?
Oui, je pense que déjà, parce que comme Eladj l'a dit, l'entraîneur déjà, il était sur la sellette. Donc du coup, il a vu vraiment que ça ne sert à rien d'attaquer avec son système déjà qui le montre. Parce que l'entraîneur joue avec un 3-4-3, qui est un système ultra défensif. Oui, donc c'est-à-dire qu'avec ce système déjà, hormis brièvement peut-être quelques éclaircies des joueurs à vocation offensive comme Ademola Lookman et Moses Simon et Victor Osimhen, on ne voit pas grand-chose. Au milieu de terrain du Nigeria, on ne voit pas vraiment des milieux de terrain qui arrivent vraiment à sortir des ballons proprement. On ne voit pas vraiment ces milieux de terrain déjà et qui peuvent faire des percussions et tout ça, qui peuvent casser des lignes. On voit que vraiment, quand ils sont en difficulté, ils n'ont recours qu'au jeu long. C'est-à-dire aussi même déjà on joue des longs ballons, déjà aussi même avec je sais pas comment dire l'importance taille qu'il a et son physique qui sait vraiment garder les ballons, qui sait créer des situations litigieuses à la rigueur des pénalties.
Donc on joue avec les qualités d'Osimhen en fait.
Bah oui, moi je
donc,
pense
tu,
que
tu
moi,
leur
moi,
tu leur reproches de jouer avec les qualités de leur attaquant vedette.
Non, je les reproche pas, mais je reproche que en thème vraiment de fan de football, parce que quand on parle du football, il y a pas que le but, certes les buts sont importants, mais aussi du plaisir, c'est-à-dire.
Mais donc on va revenir sur la Côte d'Ivoire. Hein,
parce le simple fait.
En termes de plaisir, la Côte d'Ivoire n'est pas bien placée, mon cher.
Oui, mais On a tout le temps décrié ça. Je pense que le Nigeria, moi, sincèrement, n'a pas produit du vrai football comme moi je le voulais. Mais ouais. ils arrivent à mano mano à faire les chemins. Je pense que ça a félicité.
Kemza, moi, je suis pas d'accord du tout avec ce que tu viens de dire. Hein. On a vu de très beaux milieux de terrain. On a vu du très beau jeu aussi du Nigeria. Tu ne peux pas parler comme ça du Nigeria.
Moi, je pense qu'il y a le côté. Moi, j'ai pas vu grand chose.
Non, moi, je pense qu'il y a le côté supporter qui parle un peu. Mais si tu regardes le Nigeria, objectivement, tu vois les matchs, c'est solide. Il n'y a aucun moment tu les sens fébriles. Tu les sens à aucun endroit fébriles. Tu les sens à chaque fois. Et ils volent comme un papillon, ils piquent comme une abeille. Parce que dès qu'ils ont une occasion, ils marquent. C'est vraiment ça.
Joli punchline.
Moi, je pense
non, non, c'est pas une discussion entre vous deux. T'as donné ton avis, il t'a répondu, c'est fini. Ibrahima, et puis on laisse Arthur ponctuer.
Oui, quand tu dis que là, à aucun moment que tu sens qu'ils sont prenables, il y a quand même certaines actions, notamment celles que l'Afrique du Sud a eu tout à l'heure.
Excuse-moi, mais j'ai pas dit prenable.
Non,
j'ai
pas
dit
prenable.
Fébrile.
Mais si, ils sont frébriles.
Moi, je les ai pas
sentis. On laisse
justement, t'as bien fait de me rectifier, pas prenable, mais fébrile. Et sur certaines actions, tu sens quand même qu'en défense, quand l'équipe adverse pousse un petit peu ou accélère un petit peu le jeu, on sent quand même qu'à certains moments, l'équipe aurait pu craquer. Et notamment, c'est ce qu'on voit sur. Il y a 3-4 actions où, si Persita, où il est un peu plus précis. L'Afrique du Sud est peut-être en finale.
Mais c'est 6 matchs, c'est 2 buts quand même, hein, Ibrahima.
Non, c'est sûr.
Après, c'est factuel.
Non, mais je l'ai dit tout à l'heure. Hein,
dans un penalty.
Je l'ai dit tout à l'heure, hein, défensivement, c'est très solide.
Bah,
mais c'est pas impossible de marquer contre eux.
Ah, non, ouais, personne n'a dit que c'est impossible.
Encore heureux. Ouais. Il peut même prendre 3 buts en un match.
Non, j'ai vu certaines petites failles où on sent que.
Non, il y a
s'il y a des attaquants un peu plus talentueux, peut-être qu'il y a but.
D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a été dominée par cette équipe nigériane en match de poule.
Non, pas dominée.
1-0,
dominée. C'est mené, mais pas dominée en termes de jeu.
Attends, je finis mon propos. Dominée dans le score, 1-0, dont un pénalty concédé par notre ami défenseur, que tu aimes bien d'ailleurs, Diomandé. Arthur, on ponctue là-dessus.
D'accord, moi j'étais d'accord avec Eladj parce que le Nigeria, on les voit favoris, ils ont assumé leur statut, ils sont arrivés en finale. Est-ce que vraiment une équipe a été en difficulté, enfin l'équipe du Nigeria a été en difficulté, je ne sais pas. Franchement, on verra en finale s'ils ont joué. Parce que le plus important, c'est de gagner dans une compétition, ce n'est pas forcément de bien jouer, c'est d'aller au bout. Quand on regarde l'équipe sud-africaine, c'est une équipe qui fait déjouer toutes les équipes contre qui elles affrontent. Mais quelqu'un pourrait m'expliquer comment joue l'équipe sud-africaine? Non, ils s'adaptent toujours à leur adversaire. Et s'il faut qu'ils s'adaptent, parce que c'est une équipe qui joue en transition, le Nigeria, eh ben, ils vont tuer la Côte d'Ivoire. Parce que Osimhen, il va faire très mal sur la défense, comme les deux ailiers. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vu, mais il n'y a pas de relation centraux défenseur avec le gardien. Ils essaient jamais de jouer avec le gardien et avec Osimhen, enfin les trois de devant, ils vont mettre une pression énorme sur la défense et ils seront obligés de jouer avec le gardien. Donc moi je pense que sur la finale, peut-être qu'il y aura une grosse erreur ou deux de la défense ou du gardien sur les attaquants nigérians et ça leur suffira pour fermer le match et de gagner la compétition.
Mais moi j'ai vu un Nigeria, je sais pas si vous avez vu la même chose que moi, j'ai vu un Nigeria émoussé ce soir et en plus ils se sont tapés les prolongations. Ce que l'équipe ivoirienne justement a réussi à éviter, est-ce que ça pourra être justement un élément
Je vais juger sur les deux dernières Coupes du Monde où les Croates, ils s'étaient tapés des prolongations de 8e, quart et demi-finale. Ils sont arrivés contre la France, ils avaient explosé à partir de la 50e, 60e minute. Mais contrairement à ça, l'Argentine en 2022, qui avait fait des prolongations contre les Pays-Bas et je ne sais plus qui, eh ben, ils sont arrivés dans une meilleure forme que nous sur la finale et ils nous ont battus. Donc il faudra attendre pour moi de voir dimanche ou samedi, le jour de la finale, pour voir qui est dans un meilleur état physique que l'autre.
Oui.
Et moi, je pense que non. Justement, même si tu me dis qui sera dans un meilleur état physique, moi, je t'aurais plus dit le Nigeria parce qu'ils ont joué moins de prolongations. Ils ont moins de prolongations dans les jambes que les Ivoiriens qui en ont déjà joué deux.
Mais j'ai l'impression, si après, j'ai pas tous les chiffres, mais j'ai l'impression que l'équipe ivoirienne s'est tellement cherchée qu'elle a été, si tu veux, contrainte de faire tourner énormément. Si tu regardes l'effectif de l'équipe ivoirienne, il y a peut-être 4 ou 5 joueurs, dont les deux autres gardiens qui n'ont pas joué.
Il faudra voir
donc
aussi
cette équipe a beaucoup tourné, et un Sébastien Haller n'a pas joué les premiers matchs.
Dans quel état physique il sera Haller sur la finale? Parce que c'est le premier match qui débute. Et on verra s'il aura les jambes pour jouer 60 minutes contre le Nigeria. Moi, ça m'étonnerait qu'il fait le match entier.
Mmh. Donc à suivre, justement, on reste toujours dans cette finale à venir dès dimanche prochain. Je vais tout de suite, les amis, l'heure approche, demander vos pronostics. Chakenza, ton pronostic pour cette finale.
Moi, je vois une victoire 2-0 pour la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Parce que je pense que là, le premier match, c'était totalement différent. Parce qu'on n'avait pas un Sébastien Haller déjà. C'est pourquoi on a vu un trust Ekong qui avait vraiment une certaine liberté. Sébastien
là, c'est le supporter qui parle ou c'est le consultant?
C'est le consultant. Parce que Sébastien Haller, déjà, c'est un attaquant vraiment d'un gros calibre qui peut créer pas mal de problèmes à cette défense. Parce que oui, et en plus, on n'avait même pas les mêmes éléments. Au premier match, on n'avait pas un Simon Indengra, on n'avait pas un milieu vraiment, on n'avait pas le milieu qu'on a. Au premier match, vraiment, on n'avait pas cette équipe. Je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire est bien partie vraiment pour déjouer le pronostic du Nigeria. Il a créé pas mal de problèmes. Même le fait mal, parce que là, on a le regain de confiance. Et en plus, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, parce que c'est des matchs qui sont opposé, c'est pas pareil. Là, c'est plus des matchs à phase d'élimination directe. C'est une finale, c'est le seul match qui reste. On donne tout, soit on met sur le terrain. C'est comme ça, c'est la gagne ou rien. Mm-hmm. Je pense que tout sera dans le discours de Faye et aussi de l'autre côté de l'entraîneur nigérien.
Alfred, ton pronostic pour la finale avec des arguments à l'appui, s'il te plaît. Côte d'Ivoire-Nigeria.
La Côte d'Ivoire peut gagner ce match-là.
Mais dans le micro, s'il te plaît.
La Côte d'Ivoire peut gagner la Coupe, mais la moindre des choses, c'est de respecter le Nigeria. Donc, faut pas tenir des propos pareils. C'est pas sportif. Pour moi, la moindre des choses, c'est d'abord reconnaître ce que le Nigeria a à faire. C'est un géant d'Afrique. Maintenant, il ne faut pas être chauvin aussi quand on est au football. Tu aimes ton pays, c'est bien. Mais ton pays n'a pas fait preuve de grande nation dans les débuts. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire arrive en finale. Félicitations aux Ivoiriens. Et bon, ben, le Nigeria ne sera pas une proie facile pour la Côte d'Ivoire. Je préfère être franc avec toi. Ils ne viennent pas pour baisser les bras. Donc, il faut attendre une grande bataille. La Côte d'Ivoire va gagner, mais difficilement.
Pronostic, Ibrahima. On va finir avec Arthur. J'aime bien.
Personnellement, je vois une victoire de la Côte d'Ivoire, mais je vois un match nul, un partout, et la Côte d'Ivoire qui s'impose au tir au but après prolongation.
Ils ont l'habitude des tirs au but, les Ivoiriens.
C'est ce que je vois.
Les deux étoiles, justement, étaient remportées par la Côte d'Ivoire.
Mais personnellement, je vois une longue séance de tirs au but assez éprouvante. Je vois même les gardiens tirer, ce genre de choses. C'est ce que je vois.
En mode Côte d'Ivoire-Ghana, quoi.
Ouais, 2015 et 92, pareil.
Ouais, Ayew, le pauvre Ayew, qui n'arrête pas de pleurer depuis. Eladj, pronostic.
Bah moi, c'est exactement le même pronostic que j'allais dire que Ibrahima. Hein. Exactement le même. Moi, je vois 1-1 et la Côte d'Ivoire gagner au tir au but. Mais pour moi, ça ne sera pas long. Ça va se jouer très rapidement. Les deux premiers pénaltys seront rapidement.
Déjà, quand on va au tir au but, c'est déjà long, les amis. Hein.
Oui, mais en gros, moi, je déteste pour moi, il y aura 5 tireurs. Pour moi, il y aura 5 tireurs.
Jason est d'accord avec moi, la technique. Voilà. Il déteste les prolongations parce que ça nous fait finir tard aussi. Arthur,
pour moi,
la voix de la sagesse pour terminer.
Non, pour moi c'est à contre-cœur que je vais dire que pour moi, le Nigeria, avec tout ce que peut avoir le fait de jouer la finale à domicile et la pression populaire, je ne sais pas si les Ivoiriens ils ont l'habitude d'avoir autant de pression. Parce qu'ils l'ont déjà eu. Hein.
Oui, j'ai l'impression qu'ils commencent à digérer ça maintenant. Notamment la deuxième mi-temps aujourd'hui, j'ai vu une équipe qui a peut-être eu son match référence, notamment dans cette deuxième mi-temps face à la RDC.
Moi, je pense que, comme l'a dit Eladj, je pense que le milieu de terrain, enfin, on n'a pas parlé du milieu de terrain de Nigeria assez, mais c'est un gros milieu de terrain et je pense que les Ivoiriens, ce ne sera pas aussi facile que ça qu'en demi-finale avec.
Avec le Congo.
Exactement. Ce n'est pas le même milieu de terrain. Sur la qualité, sur le volume. C'est pas pareil. Même sur les courses, ils vont vraiment bosser parce qu'ils ont des ailiers qui ne défendent pas en Côte d'Ivoire. Et là, ils auront fort à faire sur les ailiers nigérians. Mmh. Et devant, tu as un tueur. Comme tu l'as dit au début, c'est Osimhen, c'est un joueur de classe mondiale. Et je pense qu'il va les éteindre en finale.
Qu'il n'a pas mis son but. Moi, je pense qu'il va mettre son but en finale.
Il en a mis un, mais depuis là.
Attention, moi, je vais te dire une chose, c'est que pour l'histoire qui est incroyable de la Côte d'Ivoire avec le repêchage, Eh ben moi, j'ai envie de croire qu'ils vont la faire.
Ça sera la pire championne d'Afrique.
Avec
deux défaites en phase de poule.
Non, je pense pas. Je
sais pas s'il y a une équipe.
Il n'y a pas de pire champion. Tout compte fait, un champion, ça se respecte.
Tous les gros. Je sais pas.
Tous les gros de la compétition.
Mais tout compte fait, un champion.
Est-ce que c'est légal quand même? Est-ce que si la Côte d'Ivoire, justement, remporte cette coupe, ça va pas finalement remettre en question ce fameux meilleur troisième?
Le Portugal l'avait fait en 2016.
Exactement.
Portugal l'avait fait en 2016.
Oui, mais quand tu perds 4-0 face à la Guinée équatoriale et que tu finis par être champion
d'Afrique. Repêchage. Quatrième, meilleur troisième.
Avec des scénarios comme le match face au Mali et tout ça. Bah, écoute, même le scénario face au Sénégal aussi, pareil. Avec tout ce qu'on savait du Sénégal auparavant.
Moi, je pense que la CAN, c'est deux compétitions. Il y a un truc qu'on ne comprend pas. Il y a les compétitions, la phase de poule. Ça, le plus souvent, on a des équipes qui sont très intéressantes en phase de poule, mais qui n'arrivent pas à concrétiser.
Mais qui montent en puissance.
Voilà. Par contre, la meilleure compétition, c'est la phase d'élimination directe. Celle-là, on se doit d'être décisif. Certes, l'équipe de Côte d'Ivoire n'a pas été bonne en phase de poule. Oui, ça, tout le monde le sait. Et ça, il y aura.
Non, tu ne veux pas juste dire qu'elle n'a pas été bonne. Elle a été catastrophique.
Oui, qu'elle
soit dire ça.
Catastrophique. Oui, qu'elle se soit d'être catastrophique ou pas.
Déjà, contre la Guinée-Bissau. Déjà, qui le Mali a battu 6-2 juste avant.
Déjà, en 8e, elle a s'il te plaît, ne m'interromps pas. Déjà, en 8e, elle soit le favori, qui est le Sénégal. Déjà, en quart, elle soit une équipe prétendante au titre, une très bonne équipe du Mali. Et là encore, la consécration avec le Congo, une équipe vraiment qui joue très bien, c'est le seul Nigeria. Je pense qu'il n'y a pas de question qu'elle soit un mauvais champion. La Côte d'Ivoire est très mauvais champion parce qu'elle a su gérer.
La Côte d'Ivoire n'est pas encore championne.
Oui, mais elle le serait. Non, si elle le serait.
Non, mais tel est ton souhait, mais ce n'est pas encore le cas. Hein.
Au cas où elle est championne, on aura un très bon champion qui a su gérer la phase la plus utile de la compétition.
J'espère qu'ils seront champions pour toi. Sinon,
j'avais dit en début de plateau que la phase la plus utile de cette compétition, c'est la phase d'élimination directe parce que c'est là que se jouent les choses décisives. Et je pense que cette nation serait décisive.
Hein. Faut y aller. Hein,
merci les amis, en tout cas, d'avoir été présents aujourd'hui dans Au bout du foot, spécial Coupe d'Afrique des Nations, spécial demi-finale. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée et va donc retrouver le Nigeria en finale. Ça va se passer dimanche 11 février. Nous serons là justement à la fin de ce match pour débriefer avec toute la team d'Au bout du foot. Jason Lindor réalisé Au bout du foot de ce soir. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Et puis, ma foi, que le meilleur gagne. Salut.
Salut.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat.
Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas.
Vous suivez Au bout du foot avec Malik Eudi et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h sur monparisfm.com.